Chapitre 8. Une femme n'oublie jamais la première fois où on l'a frappée. J'ai eu de la chance. Mes parents n'ont jamais levé la main sur moi. Mon père ne m'a jamais giflé parce que j'avais été insolente, ni donné de fessée parce que j'avais délibérément désobéi. Peut-être parce que je n'étais jamais désobéissante à ce point. Ou parce que, quand mon père rentrait à la maison le soir, il était trop fatigué pour s'en soucier. Après la mort de mon frère, mes parents étaient devenus des coquilles vides, et le simple fait de se traîner jusqu'au bout de la journée leur prenait toute leur énergie. À 12 ans, j'en étais venue à accepter cette petite maisonnée morbide qui me tenait lieu de famille. Je me suis mise au sport, football, softball, athlétisme, tout ce qui pouvait me permettre de rentrer tard après l'école et de passer le moins de temps possible à la maison. Juliana aussi aimait le sport. Nous étions deux inséparables, toujours en uniforme, toujours en train de courir d'un endroit à un autre. J'ai pris quelques coups sur les terrains de sport. Au baseball, un missile en pleine poitrine qui m'a jeté par terre. C'est là que j'ai découvert qu'on voit vraiment 36 chandelles quand on a le souffle coupé et la tête qui rebondit sur le sol dur. Et puis il y a eu diverses blessures au football, coup de tête dans le nez, coup de crampon dans le genou, un coup de coude dans le ventre de temps en temps. Croyez-moi, les filles peuvent être des teignes. On n'est pas les dernières quand il s'agit de castagner et de serrer les dents, surtout dans le feu de l'action quand on essaie d'en mettre un pour l'équipe. Mais ces coups-là ne me visaient pas personnellement. Juste le genre de dégâts collatéral qui se produit quand vous disputez le ballon à votre adversaire. Une fois le match terminé, on se serre la main avec une tape sur les fesses, sans arrière-pensée. La première fois où j'ai vraiment dû me battre, c'était à l'école de police. Je savais que j'y recevrais une sérieuse formation au combat au corps à corps, et je n'attendais que ça. Une femme seule à Boston? Que je réussisse ou non à intégrer la police, savoir me battre était une excellente idée. Pendant 2 semaines, nous avons fait des exercices de base. Position défensive pour protéger son visage, ses reins et bien sûr son arme de poing. Ne jamais oublier son arme. Nous a-t-on seriné encore et encore. La plupart des agents qui en sont dépossédés sont ensuite tués avec. Première technique de défense, maîtriser l'agresseur tant qu'il est encore à distance. Mais au cas où ça tournerait mal et où on se retrouverait en situation de combat rapproché, protéger son arme et cogner fort dès que l'occasion se présente. J'ai découvert que je ne savais pas donner de coups de poing. Ça a l'air facile comme ça. Mais je serrais mal le poing. Je me servais trop de mon bras au lieu d'y mettre tout le poids de mon corps en pivotant le buste. Tous autant que nous étions, même les mecs costauds, nous avons donc encore passé quelques semaines à apprendre comment donner du punch à nos coups. Au bout de 6 semaines, les instructeurs ont jugé que nous nous étions suffisamment exercés comme ça. Il était temps de mettre en pratique ce qu'ils nous avaient enseigné. Ils nous ont répartis en 2 équipes. Nous avons tous passé des protections et les instructeurs nous ont armés, pour commencer, de bâtons rembourrés, à qui ils donnaient le doux nom de casse-tête. Ensuite, ils nous ont lâchés. N'allez pas vous imaginer une seule seconde qu'on m'a mise face à une femme plus ou moins de mon gabarit. Trop facile. En tant qu'agent de police, j'étais censée affronter n'importe quoi et n'importe qui. Alors les formateurs ont volontairement laissé faire le hasard. Je me suis retrouvée face à une autre recrue, Chuck, 1m85, 120 kilos, ancien joueur de football américain. Il n'a même pas cherché à me frapper. Il a juste foncé sur moi et m'a envoyé le cul par terre. Je suis tombée comme une masse et le souvenir de cette balle en pleine poitrine m'est revenu pendant que j'essayais de reprendre mon souffle. L'instructeur a donné un coup de sifflet. Chuck m'a tendu la main pour m'aider à me relever et nous avons recommencé. Cette fois-ci, je sentais le regard des autres recrues sur moi. J'avais vu la grimace de mon instructeur après ma décevante prestation. J'étais obsédée par l'idée que c'était censé devenir ma nouvelle vie. Si je n'arrivais pas à me défendre, si je n'arrivais pas à me battre, je ne pourrais pas entrer dans la police. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'allais faire? Comment gagner notre vie, à Sophie et à moi? Comment assurer l'avenir de ma fille? Qu'est-ce que nous allions devenir? Chuck s'était lancé. Cette fois-ci, j'ai fait un pas de côté et je lui ai donné un bon coup de casse-tête dans le ventre. J'ai eu environ une demi-seconde d'autosatisfaction. Ensuite, les 120 kilos de Chuck se sont redressés en rigolant et sont revenus vers moi. Là, ça a été terrible. Encore aujourd'hui, je ne me souviens pas de tout. Je me souviens d'avoir été prise d'une vraie panique. Je bloquais, je bougeais, je lançais mon épaule dans les coups. Mais Chuck revenait encore et toujours, 120 kilos de footballeur contre mes 60 kilos de jeune maman désespérée. L'extrémité rembourrée de son casse-tête est entrée en collision avec mon visage. Ma tête est partie d'un seul coup en arrière pendant que mon nez absorbait le choc. J'ai vacillé, les yeux instantanément noyés de larmes, déséquilibrés, à moitié aveuglés. J'avais envie de tomber, mais je comprenais avec affolement que je ne pouvais pas. Il m'aurait tué. C'était l'impression que j'avais. Si je tombais, j'étais morte. Et puis finalement, je me suis quand même laissée tomber, petite boule compacte qui s'est ensuite détendue comme un ressort pour se jeter dans les jambes du géant dressé au-dessus de moi. Je l'ai attrapé au genou, j'ai donné une secousse sur le côté et je l'ai fait basculer comme un séquoia. L'instructeur a sifflé. Mes camarades ont applaudi. Je me suis relevée en titubant, en tâtant précautionneusement mon nez.
« Vous vous en souviendrez »,
m'a informé mon instructeur avec bonne humeur. Je suis allée voir Chuck, je lui ai tendu la main pour l'aider à se relever. Il l'a prise avec gratitude.
« Désolé pour ton visage »,
m'a-t-il dit tout penaud. Pauvre colosse, obligé de se payer la fille. Je l'ai rassuré, il n'y avait pas de problème. Chacun de nous faisait ce qu'il avait à faire. Ensuite, on nous a assigné de nouveaux adversaires et rebelote. Ce soir-là, recroquevillée toute seule dans ma chambre d'internat, j'ai enfin pris mon nez dans ma main et pleuré, parce que je ne savais pas si je serais capable d'en repasser par là. Parce que je n'étais pas certaine d'être vraiment prête pour une nouvelle vie où il faudrait donner et recevoir des coups, où je pourrais réellement avoir à défendre ma vie. À ce moment-là, je ne voulais plus être policière. Je voulais juste rentrer chez moi, retrouver mon bébé. Je voulais tenir Sophie dans mes bras et respirer l'odeur de son shampoing, sentir ses petites mains potelées dans mon cou. L'amour inconditionnel de ma fille de 10 mois. Au lieu de ça, le lendemain, je me suis fait rouer de coups et encore le surlendemain. J'ai enduré les côtes meurtries, les tibias bastonnés, les poignets douloureux. J'ai appris à encaisser, à rendre coup pour coup. Et au bout des 25 semaines de formation, je suis ressortie au pas cadencé, la tête haute, couverte d'ecchymoses violacées mais prête à en découdre. Petite, rapide et teigneuse. La tueuse d'ogre, m'appelaient mes camarades, et j'étais fière de ce surnom. Cette époque m'est revenue en mémoire pendant que le médecin examinait les résultats du scanner et tâtait doucement les chairs gonflées et violacées autour de mon œil.
« Fracture de l'os zygomatique »,
a-t-il murmuré avant d'ajouter à mon attention.
« Vous avez la pommette cassée. »
Nouvelle lecture attentive d'image, nouvel examen de mon crâne.
« Aucun signe d'hématome ni de contusion cérébrale. Vous avez la nausée? Mal à la tête ?»
J'ai murmuré oui pour les deux.
« Votre nom et la date ?»
J'ai retrouvé mon nom, trou noir pour la date. Autour du médecin de hocher la tête.
« Il n'y a rien sur le scanner, donc vous n'avez sans doute qu'une commotion liée à votre fracture du zygomatique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ?»
Il en avait fini avec ma tête, était passé à mon torse, où la moitié de ma cage thoracique était couverte de traces jaunes et vertes, des ecchymoses en régression. Je n'ai pas répondu, les yeux rivés au plafond. Il a palpé mon ventre.
« Est-ce que ça fait mal ?»
Non. Il a retourné mon bras droit, le gauche, cherchant d'autres lésions. Il en a trouvé une sur ma hanche gauche, encore une ecchymose violet foncé en forme d'arc cette fois-ci, comme faite par le bout d'une rongeur. J'avais vu des traces de coups en forme de chevalière, de cadran de montre, et même l'empreinte d'une pièce de 25 cents sur une femme qui s'était fait tabasser avec un rouleau de monnaie par son petit copain. À en juger par la tête du médecin, lui aussi, il avait tout vu. Le docteur Raj a remis ma blouse d'hôpital en place, pris mon dossier médical pour y rédiger quelques observations.
Le mieux à faire pour la fracture de la pommette, c'est de ne pas y toucher. On va vous garder cette nuit pour surveiller la commotion cérébrale. Si la nausée et le mal de tête se calment d'ici demain matin, vous pourrez sans doute rentrer chez vous.
Je n'ai rien dit. Le docteur s'est rapproché. S'est éclairci la voix.
J'ai senti une bosse sur la 6e côte à gauche. Une fracture qui a mal consolidé, je pense. Il a laissé un temps, comme s'il attendait que je dise quelque chose. Peut-être que je fasse une déclaration qu'il pourrait consigner dans mon dossier. La patiente indique que son mari l'a jetée par terre et lui a donné un coup de pied dans les côtes. La patiente indique que son mari aime beaucoup sa batte de baseball. Je n'ai rien dit, parce que les déclarations laissent des traces et que ces traces deviennent des preuves qui peuvent être utilisées contre vous.
Vous vous êtes bandé les côtes vous-même ?
Oui. Le docteur a poussé un grognement. À lui seul, cet aveu répondait à toutes ses questions. Tout comme l'ambulancière avant lui, il me voyait comme une victime. Ils étaient tous les deux dans le faux. J'étais une survivante, et je marchais sur une corde raide dont il était absolument, totalement exclu que je tombe. Le docteur Raj m'observait de nouveau.
« Le repos est le meilleur traitement », a-t-il enfin affirmé. « Avec votre commotion, je ne peux pas vous prescrire de somnifères, mais je vais demander à l'infirmière de vous apporter de l'ibuprofène pour la douleur. »
« Merci. »
« À l'avenir, si vous vous cassez encore des côtes, venez me voir tout de suite. Ça me ferait plaisir de les voir mieux bandés. »
« Ça va aller. » Le docteur Raj n'a pas eu l'air convaincu.
« Reposez-vous. La douleur et l'œdème diminueront rapidement, mais j'ai comme l'impression que je ne vous apprends rien. »
Il est parti. J'avais la joue en feu, la tête me lançait, mais j'étais satisfaite. J'étais réveillée, lucide, et enfin seule. Le moment de réfléchir à un plan. Mes poings se sont refermés sur les draps. Scrutant les dalles du plafond avec mon œil valide, je me suis servie de ma douleur pour affermir ma détermination. Une femme se souviendra de la première fois où on l'a frappée. Mais avec un peu de chance, elle se souviendra aussi de la première fois où elle a résisté et gagné. J'étais la tueuse d'ogres. Il suffisait que je réfléchisse, que j'échafaude un plan, que je prenne un coup d'avance. Je pouvais le faire. J'allais le faire. J'ai perdu mes dents de devant, mais pourtant maman, je les brossais souvent. Alors je me suis roulée sur le côté, en boule, et j'ai fondu en larmes.